Bon, parfait. Bonjour, bienvenue tout le monde. Merci énormément pour votre présence, votre écoute. Mon nom est Jean-Michel Berthiaume. Le plaisir que j'ai d'animer cette table ronde-là. Louis-Paul, tu as fait une proposition qui était vraiment intéressante. En quoi est-ce que, autant qu'on parle de sérialisation des films au cinéma, il faudrait aussi parler de cinématisation, c'est le terme que tu utilisais, des séries. Donc, essentiellement, la table ronde, du moins la discussion enflammée qui va suivre, va porter sur ces deux dynamiques-là. Donc, à la fois la télé qui devient de plus en plus cinématographique, cinématique, et le cinéma qui est en train de devenir de plus en plus sériel, ou du moins qui emprunte des techniques à la sérialité télévisuelle ou littéraire pour être capable de créer des méga-empires. Bon, évidemment que le cas d'Avengers est inévitable par rapport à ça, mais je pensais à la semaine dernière au cas de l'univers de James Wan et The Conjuring. Donc, les bio, en fait, les personnes dont je faisais l'éloge de l'intelligence, c'est que je ne faisais pas ça seulement pour le spectacle, c'est vraiment parce que vous êtes des personnes que j'admire comme incroyablement. Je vais commencer avec Hélène, qui détient un doctorat en savant fou, dont elle a élucidé le mystère de l'obsession à vouloir détruire le monde. Elle s'est ensuite attaquée à l'épineuse question de la généalogie simiesque des post-humains. Depuis plusieurs années déjà, elle a cherché et trouvé des raisons académiques pour justifier sa longue passion pour les séries télé, en particulier de science-fiction et fantastique. Hélène, merci beaucoup d'être ici. C'est tous des trucs qu'on va avoir besoin pour cette conversation-là. Je continue avec Louis-Paul Willis, qui est professeur d'études cinématographiques et médiatiques à l'UQAT et membre régulier du Centre de recherche Figura. Ses intérêts de recherche portent sur les théories de la réception, la narratologie, le féminisme et la psychanalyse. Bonjour.
Bonjour. Ma bio est plus plate que celle de...
Tu aurais pu la chanter.
Ça aurait déjà été ça. Ouais.
Et on complète le tout, on va s'entendre, une espèce de super équipe. Là. Ça fonctionne un peu de cette manière-là. Ça a été composé comme ça. Ça nous prend sorcier, barde, guerrier, Ant-Man, Star-Lord... avec Mathieu Ligoët, qui est doctorant en théorie et épistémologie de la littérature à l'Université Montréal. Il est aussi chargé de cours, l'Université de Montréal, pardon. Il est chargé de cours au CETAS, nice, et coordonnateur du laboratoire sur les récits du soi mobile et rédacteur en chef de la revue en ligne Panorama Cinéma. Sa thèse cherche à développer une conception ontologique du temps de la lecture et du temps du regard dans la bande dessinée. Donc, je vous présente ma super équipe pour notre journée de table ronde. Et on va commencer, en fait, avec une des propositions extrêmement stimulantes. Je pense que dès qu'on l'a reçu, la proposition d'Hélène, on s'est dit qu'on doit partir avec ça. Cette idée d'une typologie des différentes formes de la sérialité cinématographique. Hélène, ton travail est trop impressionnant pour ne pas commencer avec ça. Est-ce que tu veux nous le présenter, s'il te plaît?
Oui, merci. Moi, je vous propose une typologie qui n'est pas basée sur aucune théorie que j'ai vue, mais plutôt sur de l'observation, mais entre autres sur le fait que les travaux qui ont été publiés sur ces questions-là, souvent, vont soit s'intéresser au genre sur le plan textuel, soit à l'institution, soit donc dans différentes formes, mais on va rarement les combiner, alors que dans la réalité, pour moi, ils se combinent, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des séries qui reposent surtout sur la réception, surtout sur l'institution, d'autres qui reposent surtout sur la structure narrative, mais je pense que tout ça cohabite puis s'interpénètre, donc... Premièrement, je proposais une différence entre les séries fermées et les séries ouvertes ou infinies. Les séries fermées qui seraient un nombre de films qui est déjà prévu dès la conception, hein, les two-parters, les trilogies, les quadrilogies, pardon, et qu'on pourrait séparer en deux catégories, hein, ceux qui sont plus du côté du feuilleton, donc un espèce de récit fractionné, hein, Kill Bill, Star Wars, donc dont on va vraiment avoir une longue histoire qui va être fractionnée en plusieurs films et qui est déjà prévue, donc... bien structuré, et l'autre qui est peut-être moins du côté... qu'on a quand même assez régulièrement en culture pop, mais peut-être un peu moins, c'est la série fermée, mais conceptuelle ou thématique. Donc, il va y avoir des liens qui ne sont pas narratifs entre les films, mais plutôt des liens donc, d'univers fictionnel partagé ou de concept. On peut penser à la trilogie Bleu-Blanc-Rouge de Kieslowski ou même à la trilogie du Dollar de Sergio Leone, donc des films qui n'ont pas nécessairement exactement la même structure narrative, pas exactement les mêmes personnages. Ça peut être des acteurs qui vont être en commun, ça peut être donc un univers fictionnel partagé, donc du côté de la transmédialité.
Une thématique, tu sais? Ouais, c'est comme la trilogie de la vengeance de Park Chan-wook, là, ouais. Boy, Sympathy for Lady Vengeance.
Oui, absolument. Donc,
ou même, je rajouterais American Horror Story, peut-être là-dedans.
Oui,
comme
ben,
série télé. Ah, ouais,
ben, en fait, je pense qu'on pourrait peut-être rapprocher ça de l'anthologie en série télé, en fait. Mm-hmm. Puis peut-être American Horror Story, oui, mais peut-être les vraies séries anthologiques.
Twilight Zone, Twilight Zone, Tales from the Crypt.
Ça, où là, on a vraiment pas de lien narratif du tout. On a vraiment
Black
des
Mirror.
Black Mirror, ouais. Absolument. Ouais. Où on a des vrais liens thématiques qu'on voit très bien. Des fois, c'est un style aussi, ça peut être un style visuel, mm-hmm. que généralement, on identifie très facilement, alors qu'on a tendance à penser que ça nous prend une structure narrative commune, ça nous prend des personnages communs pour les identifier facilement. Mais en fait, on voit un épisode de Black Mirror, tout le monde sait que c'est un épisode de Black Mirror, donc on ne se pose pas tellement la question. Puis souvent, ça va être des créateurs en commun qui vont permettre cette ligne-là. Je pense que... Mm-hmm. Après, il y a les séries ouvertes où j'avais dit infinies. Je pense que c'est presque plus infini qu'ouvert d'une certaine façon, donc je l'opposais à fermer. Mais en gros, c'est les séries qui ne permettent jamais vraiment de fin. Puis qui se termineront jamais, c'est-à-dire que peut-être qu'il n'y aura plus de film à un moment donné, mais qui offrira jamais une conclusion, ça paraît évident. Là. Ça peut être des choses comme James Bond, par exemple. On s'imagine mal qu'il nous propose un dernier film de James Bond.
Il meurt.
Oui, c'est ça. ce qui irait contre le principe même, en fait, de la série. Donc, ça me rapproche un peu de l'idée que j'ai, que dans beaucoup de cas, dans les séries télé, en tout cas, la fin, c'est toujours une rupture qui ne correspond pas à la matrice de la série même. C'est pour ça qu'on trouve ça tellement disruptif. Qu'on aime la fin ou pas, c'est jamais un vrai épisode de la série. C'est-à-dire que même si on aime la fin de Six Feet Under, la fin, ce n'est pas un épisode de Six Feet Under. Parce qu'elle n'utilise pas la matrice de la série. Puis si elle ne correspond pas à la matrice, ben forcément, c'est un peu un ovni dans la série. Donc, le fait de terminer une série, c'est presque par définition disruptif. Donc, mm-hmm. je pense qu'à cause de ça, ça nous permet de sortir... Et puis donc, ces séries infinies-là, ça montre qu'en fait, il n'y a jamais de fin vraiment possible à des choses qui se répètent de cette façon-là à l'infini.
Fait que ça, c'est comme écouter les 24 en se disant « il va bien mourir à un moment donné, Jacques Bauer », puis finalement, ça n'arrive jamais. Ouais.
Oui, puis même si ça arrivait, on dirait qu'on y croirait presque pas, ouais. parce que ça ne fait pas partie même de l'imaginaire de la série.
Oui, je trouve que c'est vraiment intéressant ce que tu dis. Je pense, dans l'univers du comic, il y a eu des séries qui s'appelaient « The End ». Il y a eu Wolverine « The End », il y a eu Hulk « The End
ouais. ».
Mais... tant au niveau éditorial qu'au niveau de la réception, les gens traitaient ça comme une proposition de fin.
Ouais.
Mais il n'y a pas vraiment de façon, tu sais, comme, bon, évidemment aussi, si tu fais l'extension dans l'univers du super-héros, tu sais, il ne meurt pas, puis personne ne meurt jamais véritablement. Il y a autant de Death of Wolverine qu'on peut l'imaginer. Mais même les The End étaient un peu comme des univers alternatifs, juste des propositions. OK, pour que ça se termine, il faudrait que ça se termine à peu près de même.
Ouais.
Mais il y a personne qui a fait « Ouais, c'est vraiment comme ça que ça va se finir.
Ouais. »
Casino Royale est aussi un peu ça. Je pense, pas celui de ben, un peu ça, le plus récent, mais clairement celui de Peter Sellers avec Woody Allen. Il a ce feeling-là de la fin, genre.
Si Woody Allen pouvait fournir la fin, hein, James Bond, tu sais.
Quelqu'un qui peut le faire, ce serait lui, là.
Oui, il pourrait probablement tuer James Bond, effectivement.
Il l'a envoyé chez le psychanalyste.
Oui.
C'est
ouais.
ça qui le tuerait, je pense.
Ah, c'est ça.
Oui, ouais, puis je pense que dans ça, on pourrait peut-être même inclure les remakes d'une certaine façon. C'est-à-dire que même les personnages qui peuvent mourir, tu sais, c'est pas nécessairement sur le plan de justement la trame narrative qui se poursuit. C'est-à-dire même si James Bond mourait, on pourrait très bien refaire un autre film où il serait vivant. Je veux dire, il n'y a rien qui empêche. Puis dans cette idée-là du remake, pour moi, les remakes sont presque une forme de sérialité au cinéma. Surtout dans certains cas de films où on a des remakes périodiques. C'est-à-dire que, tu sais, on va avoir un Frankenstein à tous les 10 ans, on va avoir un Dracula à tous les 20 ans, on va avoir un, tu sais, on va avoir, il y a certaines figures mythiques de la littérature.
Des constances.
Qui vont toujours être réinterprétées puis qui vont citer les uns les autres. Puis c'est pour ça que pour moi, c'est une forme de sérialité parce que c'est pas comme s'ils se faisaient dans le vide non plus, ces remakes-là. Tu sais, ils sont toujours dans la réinvention, mais aussi dans la poursuite d'une série. Mais je pense qu'il n'y a peut-être pas de temps, il y a peut-être pas des milliers d'exemples de ça. Là. C'est vraiment peut-être les figures mythiques ou littéraires les plus fortes qui sont...
Mais quand on croise le cinéma et sa sérialité avec les séries, là, on pourrait parler d'une typologie de remake aussi dans l'épisode, le retcon.
Oui, absolument. Qui s'applique aussi au cinéma, par ailleurs.
Oui, absolument.
Ouais. Donc, dans les grandes séries, tu sais, les reboots, tout ça. Au colloque intervalle sériel à l'Université de Montréal, il y a deux semaines, il y a quelqu'un qui faisait une communication sur le premier Star Trek de J.J. Abrams. L'idée, en fait, qui pourrait peut-être être approfondie davantage que ce qu'il proposait, mais quand même, son idée n'était pas inintéressante. C'est-à-dire que, pour lui, ce film-là, c'est à la fois le reboot, le prequel et le sequel. C'est comme une espèce de parfaite combinaison de toutes les possibles dans ce film-là, pour des raisons narratives, entre autres, pour des raisons institutionnelles, pour des raisons commerciales. Et donc, ils ont réussi, grâce, par exemple, au voyage temporel, aux théories des univers parallèles, à créer une suite qui serait aussi un début, qui serait aussi un reboot. Ce qui est assez réussi, en plus. Oui. Parce qu'on a de la citation après la suite. Est-ce qu'elle a été réussie? C'est une autre histoire. Mais le premier épisode est assez réussi. C'est-à-dire qu'il y a cette idée-là aussi de la citation de la série originale. Donc, on n'essaie pas de faire un reboot complet non plus. On s'inscrit vraiment dans l'original, ne serait-ce qu'en ayant un acteur qui joue son propre rôle qui est de la série originale. Donc, on a même des traces de l'original même dans le reboot, ce qui est assez rare. Là. Je ne connais pas beaucoup d'autres exemples où on peut avoir ce type de choses-là.
Il y a eu un phénomène semblable avec, c'était vraiment moins bien réussi qu'avec le Star Trek de J.J. Abrams, mais avec le remake il y a quelques années de The Thing. Qui était vendu au moment de sa sortie comme un reboot, en fait, de The Thing. Et puis, en fait, au fur et à mesure que le film progresse, on se rend compte que ce n'est pas un reboot, c'est un prequel au premier The Thing, à la scène finale, en fait, qui reconnecte avec le début du film de Carpenter. Je pense que c'est des phénomènes qui arrivent aussi de plus en plus souvent au fur et à mesure que, je pense, les producteurs se rendent compte que dans ces stratégies de mise en sérialisation ou d'espèce de où il peut y avoir à la fois l'idée qu'un film peut être un prequel ou un reboot ou une suite, une espèce de stratégie d'occultation par rapport au public, tu sais, qui joue beaucoup sur le marketing, sur la surprise, dans la mesure où est-ce qu'un des trucs aussi qui est très pesant dans cette question-là de la sérialisation du cinéma, c'est comment faire pour renouveler les récits en même temps qu'on les prolonge. C'est un grave problème qu'on voit constamment, puis entre autres avec le Marvel Cinematic Universe.
Moi, j'aime bien cette espèce de tension entre le reboot et le prequel. À un moment donné, j'avais fait un truc sur Bates Motel, puis un des articles que j'avais lu en amont de cette présentation-là proposait que Bates Motel serait un pre-boot, qui va chercher les éléments du prequel, parce que c'est un peu ça, c'est un assez lent épisode, mais en même temps, on reboot tout, là, tu sais, Norman Bates va dans les raves, il texte avec son iPhone, tu sais, on est ailleurs, là, fait que, ouais.
Et pour les gens qui voudraient se diriger vers cette recherche-là, on peut pas passer sous silence l'exceptionnel Scream 4. En tant qu'objet d'étude, Scream 4, il devient une espèce d'Ouroboros, Mathieu sait de quoi je parle, le film est son propre remake. Ça n'a absolument aucune allure, ça mérite d'être vu par tout le monde dans la salle. Immédiatement.
Ben, j'ai pas vu le 4, mais bon, c'était en germe dans Scream en général. Là,
ouais. 1, 4, 2, 3. En termes d'ordre d'importance.
Tu peux les écouter dans
ce. Ouais, c'est ça, je veux dire. C'est le débat Star Wars-esque, là, dans le.
Ben, donc, cette idée-là de la suite infinie, qui va, je pense qu'effectivement, on est tout le temps dans la... Puis, tu sais, je voulais juste mentionner l'exemple en passant, il y a La planète des singes aussi qui est dans cette même idée-là,
qui l'a fait
de manière assez intéressante, tu sais, Surtout qu'on avait tellement un immense trou narratif à combler que ça permettait vraiment de l'expansion presque à l'infini.
Liberté,
à l'intérieur du prequel,
qui
était assez réussi en plus, sans compter que les films originaux des années 60, je pense, étaient eux-mêmes une réécriture assez radicale du roman, donc qui était assez différent, donc dans un univers fictionnel assez différent. Donc, en gros, on peut réinterpréter ces choses-là presque à l'infini. Puis ça nous amène dans le mythe, en fait. L'idée de la suite infinie, c'est un peu l'idée du mythe. C'est l'idée qu'on peut réinterpréter tout le temps la même histoire. Ensuite, j'avais la suite commerciale, donc qui est peut-être plus vraiment sur le plan institutionnel, ces films qui font des succès commerciaux, puis qu'on décide de prolonger. Généralement, c'est assez peu réussi, mais Parfois, on a des surprises. Des fois, le deuxième sont meilleurs que les premiers. Mais c'est ce qui est assez intéressant dans celui-là, c'est qu'on va avoir une espèce de norme du titre de la suite. On va toujours avoir un encore ou un 2 qui va s'intégrer dans le titre.
Donc, Grease 2.
Grease 2.
C'est vieux, c'est là. Ouais. Ça montre que ça date.
I know what you did last summer. Again. I know again what you did. Donc, il y a toute cette idée-là de la répétition qui est assez drôle parce que qui est clairement pas pensée parce que c'est des films qui sont à la base des concepts qui ne demandaient pas du tout des suites. Personne ne demandait des suites. Je veux dire, clairement, le public demande pas de suite à ce genre de film-là, mais on sait qu'il y a de l'argent à faire. Donc,
on va répéter les mêmes gags, puis ça,
ouais,
c'est sériel.
Malgré que Grease 2 est dans mes exemples de second qui est meilleur que l'original.
Ah, enfin!
Ouais. Non, c'est
je suis tellement d'accord. Je n'osais pas le dire. Je ne m'assume pas encore là-dedans. Mais... Right on! On va dîner ensemble.
Ouais, les exemples sont innombrables.
De suites qui sont meilleures que l'original.
Non, de suites commerciales. De suites commerciales, puis généralement assez manquées. Puis parmi ces suites commerciales-là, j'ai quand même remarqué qu'il y avait soit la répétition du modèle, la même structure narrative, qui là, généralement, sont les films les moins réussis. Là. C'est souvent, on va répéter exactement les mêmes gags. La structure est identique. On voit ça beaucoup en horreur quand même.
Oui.
Après ça, on peut avoir un prolongement narratif, donc au modèle du feuilleton plutôt. Donc, on va décider de prolonger l'histoire, trouver les petits éléments qui étaient possibles de prolonger. Ou sinon, on va avoir le prolongement qui est le spin-off, qui est peut-être plus intéressant, donc qui emprunte plus à la série télé.
C'est
qui va chercher un personnage puis qui le développe ailleurs.
Ça aussi, on voit beaucoup en horreur.
Ouais.
Créature-là, ce pantin-là.
Ouais.
Dans la science-fiction aussi, je pense, d'explorer l'univers pour aller chercher le film qui va expliquer. Ouais.
En même temps, est-ce que tout de suite n'est pas une suite commerciale, dans la mesure où ça commence comme étant une suite commerciale, puis ensuite, il voit si narrativement, commercialement, il n'y a pas une espèce de force de traction qui peut se développer pour partir une saga. Je pense par exemple à Indiana Jones. Je ne suis pas certain qu'au premier Indiana Jones, il soit dit « on va faire une série avec ça ». Puis en quelque part, peut-être que c'est pour ça que le deuxième se passe dans le passé du premier, qu'il y a cette espèce de jeu-là qui est dans le fond plus ou moins important donc, par rapport à la narration.
Mais je pense que tu as raison. Je pense qu'Indiana Jones est plus une suite commerciale qu'une trilogie, en fait.
Ben
parce qu'il n'est pas pensé comme une trilogie. T'sais. Puis tu le sens quand c'est pensé comme un two-parter ou une trilogie, ça se sent tout de suite. Par contre, par exemple...
Back to the Future.
Oui, Back to the Future. Tu ne peux pas les lire autrement que comme une suite.
C'est,
clairement, même si le premier n'avait pas fonctionné, il aurait probablement sorti le deuxième quand même parce qu'il était déjà tourné en partie de toute façon. Puis, donc, il y a ça aussi des fois qu'ils vont prendre quand même plus de risques sur une suite s'il était déjà prévu, même si le premier n'a pas fait le succès qu'il aurait voulu. Je pense que...
Bien, c'est là qu'on peut voir aussi qu'il y a, je pense, ce qui fait qu'une suite n'est pas qu'une suite commerciale, c'est aussi justement au niveau de la narration, ce qui finit par être bouclé au niveau de la caractérisation des personnages, des traumas qu'ils ont pu vivre dans des épisodes précédents. Il faut que ces choses-là arrivent à leur terme. Donc, ça veut dire qu'il faut que ces choses-là aient été placées au préalable. Donc, il y a une forme de prévision qui se fait au niveau de l'écriture en se disant, OK, on va mettre ça là, puis peut-être potentiellement, si on a la chance d'en faire une suite, on pourrait y revenir.
Ouais. Faut y avoir pensé avant.
Mais c'est ça, mais en même temps, il faut que ça s'autosuffit. Je pense que le premier Star Wars, c'est un peu un cas de ça, parce que Lucas, à l'époque, ne pensait pas du tout que ça allait marcher puis qu'il allait pouvoir faire d'autres films.
Ouais.
Mais en même temps, il s'était laissé un paquet de choses à explorer pour la suite.
Ouais.
Ça me fait penser à un truc que je voulais dire sur la répétition de la même structure narrative. On est rendu plus loin, mais moi, ça m'a fait penser à... J'ai écouté dernièrement Lost in Space.
Ouais.
Puis je trouve que le titre est vraiment aptement, adéquatement choisi parce que Lost in Space, c'est exactement ça. C'est la série Lost, mais dans l'espace. c'est bon, pour vrai, tu sais, les arcs narratifs sont à peu près identiques. Je sais que Lost in Space, c'est comme un remake, justement, de quelque chose qui s'est fait avant, mais... Puis c'est trop loin pour moi. Quels sont les liens entre l'œuvre source et la série?
Il y en a étonnamment.
Oui.
J'ai exploré il n'y a pas longtemps.
OK, OK.
Ouais, mais ils sont...
Mais moi, quand j'écoutais, c'était pas inintéressant, mais j'étais comme, come on, tu sais, c'est vraiment, c'est Lost.
Ouais. L'os familial. Ouais, c'est ça. L'os pour la famille. Ouais. Parce qu'il y a quand même un ton qui est peut-être un peu plus familial, qui est un peu plus... ouais.
Non, puis t'as peut-être pas le côté plus panoptique qu'on a dans l'os, là, mais pour le reste...
Par contre, la structure temporelle est plus chronologique quand même.
Oui, t'as pas les flashs sideways et tout ça, mais moi, je veux dire juste, on est quelque part, on est pogné là, puis on veut se pousser.
Mais c'est le récit naufragé, en fait.
Oui, exactement.
Mais je l'ai trouvé plutôt intéressant le remake, par contre.
C'était bon. Lost in Space.
Y a un exemple que je trouve intéressant qui est peut-être hybride et qui montre bien qu'il y a une tension entre les deux. C'est par exemple Pirates des Caraïbes, qui est clairement pensé comme une trilogie. Donc, c'est-à-dire que clairement, ça a été conçu pour que les trois films se structurent ensemble. Mais ça a tellement marché et il y a tellement d'argent à faire que pourquoi ne pas continuer? Pourquoi pas engager un autre réalisateur qui va massacrer le travail?
Même qu'initialement, c'était pas nécessairement un film, mais plus un infopub pour un manège.
Ça, c'est vraiment.
Mais infopub pour un manège. Je sais pas si les manèges de Disney ont besoin d'infopub.
Avais-tu besoin de faire une pub de 300 millions pour vendre une ride à Disney?
Mais honnêtement, je sais ça.
Ça vrai. Là, les Star Wars sont quand même construits pour vendre des jeux vidéo.
Oui, des figurines.
Oui, après, il y a toujours quelqu'un qui, au départ, voulait juste faire de l'argent, là, mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas des gens créatifs qui jouent à
ça. Non, absolument pas. C'est pas du tout ça que je dis.
Je pense que c'est. Ouais.
Ils ont tellement pas prévu la trilogie ou la quoi, ils sont rendus à 5.
C'est clairement une trilogie puis des suites commerciales. T'sais. C'est clairement, les films qui ont suivi la trilogie, pour moi, ils s'inscrivent pas vraiment dans l'original. T'as pas les mêmes personnages, t'as pas le même réalisateur, t'as pas la même esthétique tellement. J'avoue que je les ai pas tellement vus les suivants. J'ai vu des extraits, là, honnêtement, puis c'est un peu l'histoire, mais on les a même pas écoutés. C'est un bon signe quand même.
Ouais, que ça paraît, on dirait même pas qu'ils sont authentiques.
On n'a même pas envie de les voir, alors que la trilogie est très honnête, mais honnêtement, qui a vraiment envie de voir la suite?
Rendu là, le sketch à Saturday Night Live avec Michael Bolton qui trippe trop sur... ça, c'était drôle. C'est quasiment meilleur que les... En tout cas, excusez la digression.
Non, celle-là, je voulais savoir que ça. Ah,
ouais,
merci.
Oui. Je pense qu'il existe donc des exemples qu'il faut voir que ça va dans tous les sens aussi. Ça nous amène justement, on parlait tantôt d'Indiana Jones, à la suite différée, en fait. Cette idée-là, puis ça, je pense que c'est très, très contemporain. J'ai pas trouvé d'exemple vraiment autrement qu'en ce moment. On voit depuis peut-être 10 ans, on voit des films puis des séries télé qui arrivent, qui poursuivent des séries qui avaient commencé il y a 20-30 ans. On remet au goût du jour, mais on les poursuit pour vrai. On fait des poursuites narratives. On fait pas des reboots, on fait pas des remakes. On continue X-Files 20 ans plus tard. On fait un nouveau Indiana Jones, 20 ans plus tard au moins aussi, à peu près.
Twin Peaks, même chose. Ouais, mais ça, c'est une histoire un peu à part.
Ah, mais il y en a qui sont plus réussis que d'autres, hein. Ouais. Puis il y en a qu'on voulait plus que d'autres, mais...
oui.
Mais, tu sais, Arrested Development, presque 10 ans plus tard. La série originale, c'était comme 2004. Puis ça recommençait en 2014. Puis après ça, un autre 5 ans plus tard pour la dernière saison. Donc, on a une espèce de... Ça, j'ai l'impression que c'est, entre autres, vient de la télé, justement. C'est-à-dire que c'est des plateformes comme Netflix qui ont permis ça, qui ont envie d'investir dans des choses qui sont déjà connues. Ils ont besoin de matériaux, ils ont besoin de séries à passer. Ils n'ont pas nécessairement envie de développer tant que ça des nouveaux concepts. Puis ils veulent surtout des séries que les gens vont reconnaître tout de suite et qu'ils vont avoir le goût d'écouter.
Ça relève quasiment de ce que Jameson appelle la logique culturelle du capitalisme avancé là, dans son bouquin sur la postmodernité, qui ne date pas d'hier d'ailleurs. C'est très...
Il y a, par rapport à la suite différée, il y a des précédents quand même dans le cinéma qui sont aussi tirés justement de un peu de l'esthétique pulp sérielle. Je pense par exemple à la série des Mabuse de Fritz Lang, dont le premier épisode date du début des années 20, qui est un film muet. Le deuxième épisode, Lang le réalise lui-même au début des années 30, une fois qu'il passe au sonore. Puis il en fait une dernière version, son dernier film, Les mille yeux de Dr. Mabuse, comme dernier film au début des années 60. Puis à chaque fois, c'est super intéressant, parce qu'au niveau de l'esthétique, c'est Lang qui traverse en fait 30 ans, 40 ans d'histoire du cinéma. Mais en même temps, son intérêt à lui, c'était à chaque fois de revenir au personnage de Mabuse pour voir, dans le fond, c'était quoi, à ce moment-là précis, quand il faisait le film, une figure totalitaire, puis comment une espèce d'evil mastermind parviendrait à dans le fond, à brainwasher, en fait, ses suppos, puis dans le fond, comment donc, l'exercice du pouvoir s'exerçait à chacune de ces périodes-là. Donc, ça fait une espèce de contre-histoire aussi du nazisme.
Ouais.
Mais oui, tout à fait, l'idée de série différée, je pense qu'elle est... si on prend, par exemple, l'exemple de Fritz Lang, vient davantage vraiment d'une volonté peut-être vraiment narrative, symbolique, de prendre un personnage, puis de le déplacer, d'y revenir, en fait, une fois de temps en temps, au fil de son évolution en tant qu'artiste. Puis je pense que de ça, ensuite, a jailli des volontés peut-être plus industrielles, peut-être plus mercantiles.
Oui, mais tu me fais penser, en fait, en littérature, c'est peut-être un peu plus courant. Isaac Asimov a fait ça avec Fondation,
en fait.
Il a écrit sa première trilogie dans les années 40, début 50, puis il est revenu dans les années 80, puis j'avais travaillé un peu sur les comparaisons, puis c'est vraiment intéressant parce que la technologie n'est plus du tout la même, alors que c'est supposé être des prequels puis des sequels, mais bon, les vaisseaux spatiaux ne fonctionnent plus à la même énergie parce qu'il n'y a plus personne qui parle d'énergie nucléaire dans les années 80, donc c'est maintenant des vaisseaux à gravitationnels, des trucs comme ça. Donc, on sent vraiment qu'il y a des choses qui ont changé parce que l'imaginaire de la science-fiction a évolué depuis, grâce à Asimov en grande partie, donc il a créé tout un réseau de textes après avec lesquels il doit dealer. Puis c'est intéressant qu'il a décidé d'y retourner comme ça à la fin de sa vie, puis d'enrichir son propre monde, alors qu'il a écrit, il a publié autour de 800 livres, Asimov, donc c'était pas vraiment nécessaire qu'il revienne à Fondation spécifiquement, là, parce qu'en fait, il sortait jamais de chez lui, là, pour quelqu'un qui écrivait des space opéras, c'est pas mal. Il était agoraphobe, donc... il écrivait, il produisait comme ça, sans arrêt. Puis c'est vrai que c'est intéressant d'y retourner aussi longtemps. Puis des fois, c'est les fans aussi qui obligent. C'est-à-dire, par exemple, Sherlock Holmes, c'est un peu ça aussi. Hein. C'est peut-être le délai est moins long, là, mais cette idée-là de « OK, moi, je veux que ça soit fini », puis que les fans m'obligent à y retourner des années plus tard.
Ça marche pas toujours. Comme il y avait Flash Forward. Là,
ils ont recommencé ou?
Non, justement, mais tu avais un fanbase qui a beaucoup incité pour que cette série-là continue.
Oui.
Oh, oui, les pétitions.
Ça, ce qui arrive, je nous devance parce que tu es une. Mais non, j'étais à toi là. Non, c'est ta typologie.
Pourquoi pour le.
Moi, je parlais des séries avortées, mais.
Bon, on peut aller là directement, pourquoi pas. Oui, il y a au fond, il y a ces. Hein?
Non,
c'est super intéressant.
Que c'est vrai que c'est un.
Oui, oui.
C'est une parcelle vraiment intéressante, là.
Ouais.
Mais ça fait partie du paysage, mais. Ouais, mais...
Tu veux dire les séries avortées?
Ouais.
Oui. Oui, oui, il y a tout ça. On le voit super souvent à la télé, mais on le voit au cinéma aussi parce que des fois, on a un premier film, puis.
C'est un flop.
Oui, puis clairement, il était conçu comme le début d'un cycle, comme le début d'une série.
Waterworld.
Oui, La Boussole d'Or. On en parlait un peu pour Alita. Est-ce qu'Alita va avoir une suite qui est clairement prévue? Est-ce qu'elle va avoir lieu? On ne sait pas. Mais il y a plein d'exemples comme ça au cinéma, mais je trouve ça intéressant parce que ça altère notre façon de lire ces films-là. T'sais. Pour nous, on les lit comme le début d'une suite, mais à la fois, mais une suite qui n'existe pas.
C'est ça, c'est des objets incomplets, là, au final.
Ouais.
Sans trop vouloir reculer sur le devancement, mais comme je pense au la tentative récente de faire un Universal Monster, Universal Monster Universe.
Ouais.
Ça s'appelait comment?
Dark Universe.
The Dark Universe, ouais. C'était juste ça. T'sais, de faire une momie, un Dracula, un Frankenstein, tout ça. Et que, bon, c'est pas profitable, fait que ça devient, pour reprendre ta typologie, un univers cinématographique avorté. Maintenant, ces films-là ont nécessairement plus d'intérêt parce qu'on voit que le projet, c'était de faire, de culminer tous ces monstres-là pour qu'à la fin, ils se rencontrent dans une cabane dans le bois et qu'ils fassent comme, OK. Là,
c'est comme l'intervalle infini, d'une certaine façon. T'sais. C'est comme un intervalle qui s'ouvre, mais qui ne se fermera jamais.
Mais qui peut se fermer.
Oui.
Ben, tu sais, comme Twin Peaks, par exemple.
Oui.
C'était-tu ABC à l'époque? Je ne sais plus c'était quel network là, à qui appartenait la série. Ils ont comme forcé Lynch à dévoiler rapidement dans la deuxième saison le meurtrier de Laura Palmer.
Walk With Me, puis,
mais ça, c'est venu après.
Oui.
Mais, tu sais, dans la deuxième série, assez rapidement, on sait que... Je ne vais pas spoiler, là. Oh, ouais.
Je pense pas que ça soit l'intérêt premier de Twin Peaks, ça fait qu'il y a le reformer.
Mais bref, tu sais, à partir du moment où on comprend ce qui est arrivé, puis que le père, puis blablabla, puis Bob, ouais. La série, tu sais, son audiment s'est beaucoup étiolé, puis au point où la série a été annulée sur comme le cliffhanger de tous les temps, là. Puis là, bon, quand c'est revenu, on est allé complètement ailleurs. Mais, tu sais, les séries avortées, ça peut aussi être un terreau fertile. Parce ouais. que, je sais, nous, on s'en ouais. est parlé par Facebook, ouais. Mulholland Drive. Ouais. C'était le pilote d'une mm-hmm. série qui devait s'appeler Drive. Là, ça, c'était ABC, je sais. Puis, ouais. ABC, finalement, avait refusé le pilote. Il n'a même pas été diffusé. Ouais. Puis, Canal Plus a racheté les droits. Ils ont financé un nouveau tournage. Mm. Puis, on le voit quand on écoute le film. Mm-hmm. Lynch a vraiment utilisé cette espèce de... OK, j'ai ce matériel-là. Mm. Là, on va, comme on fait souvent dans les films de Lynch, ouais. l'espèce de collision frontale entre l'univers du désir et celui du fantasme. Fait que là, on va ouais. tourner le désir. Ouais. Le côté plus dark, en tout cas.
Ouais. Mais je ne suis pas sûre d'être d'accord sur le fait que ça n'a pas d'intérêt, ces films-là. Quand ils sont manqués, oui. Ouais. Quand ils sont manqués, OK, ça va, là. Mais quand ils sont réussis et qu'ils n'ont juste pas fonctionné sur le plan commercial, je trouve ça intéressant ce que ça ouvre, en fait. C'est ouais. qu'on est tendance à justement avoir des films qui sont toujours fermés, des séries qui sont toujours fermées. Puis cette ouverture-là n'est pas inintéressante parce que c'est... C'est une immense invitation au fanfiction, en fait. C'est
ça, c'est vrai.
C'est, en gros, on a créé un monde, il s'ouvre, on n'a pas les moyens de le finir, ben amusez-vous, tu sais. Puis même si tu le fais pas, tu sais, juste, tu vas t'imaginer, en fait, comme de quoi ça aurait pu avoir l'air.
Moi, ouais, t'as vraiment raison, c'est vrai.
Puis ça peut devenir une série plus tard, ça peut devenir un comic, ça peut devenir, tu sais, il y a plein de choses qui se développent après, puis... Mais effectivement, quand c'est vraiment manqué, là, c'est vrai que ça devient des objets un peu étranges.
Ouais, mais même quand c'est manqué, ouais. c'est quand même, comme tu dis, ouais. un beau terrain de jeu pour l'interprétation et pour la réappropriation. Là.
Ouais. Il y avait un Frankenstein avec Vincent Pérez qui a passé un peu, qui est assez célèbre de 2004, qui était un début d'une série télé, qui a fini par passer aussi. Ben, en fait, c'est devenu un TV movie, qui n'est pas inintéressant, mais bon, ça aurait coûté une fortune. Puis, c'était pas non plus un chef-d'œuvre. C'était basé sur, plutôt que basé sur le roman de Chase, c'était basé sur Coons, en fait, le Frankenstein de Coons. Ah. Puis, c'est pas inintéressant, ça vaut la peine. C'est Marcus Nispel qui avait fait ça. Puis, ouais, ça vaut le détour quand même. Puis, c'est cet exemple-là qui m'avait donné l'idée au départ de ces pilotes, en fait, qui peuvent devenir des films. Puis, puis ouais, c'est comme des backdoor pilots, là. C'est des qui peuvent devenir des films. Des fois, qui ont été conçus comme des films, puis ils espèrent peut-être faire une série. Ça arrive assez souvent. Puis des fois, ça a fonctionné. Oui.
Ce que tu mentionnes est dans ta typologie. Là,
oui. Ensuite, j'avais, c'est les univers cinématographiques, évidemment, dont on parlait avec Marvel, qui est probablement l'exemple le plus complexe, sans doute, parce que dans les autres cas, on a souvent des cycles facilement identifiables, puis qui sont faiblement reliés entre eux. Alors que chez Marvel, on a vraiment voulu créer une toile. Donc, c'est vraiment un peu différent, je pense. Puis, mais quand même, je pense qu'il faudrait inclure là-dedans quand même, par exemple, Star Wars, Star Trek, donc où il y a plusieurs cycles qui vont créer un univers. Donc, on est vraiment dans la transfictionnalité de Richard Saint-Gilles, l'idée d'agrandir toujours l'univers fictionnel. Puis, c'est donc des Cinematic Universe. Puis, donc, souvent, on va avoir un univers partagé, des interconnexions narratives. Puis, à l'intérieur de ça, on va avoir des cycles. Puis, c'est ça que je trouve intéressant, parce que l'univers cinématographique, au fond, c'est une série de séries, souvent. Donc, c'est vrai aussi dans Marvel, tu sais, tu vas avoir les Thor, les Iron Man, qui vont se réunir puis créer une série de séries, qui vont se réunir dans une série de séries de séries, qui est Avengers. Donc, il y a quelque chose de cette idée-là, d'une sérialité presque à l'infini, qui permet une complexité narrative, justement, assez importante, qui est peut-être plus présente en général dans la télé contemporaine qu'au cinéma, que dans les séries cinématographiques. En fait. Mais je pense que ce qui est intéressant, c'est quand les fans créent des univers cinématographiques.
Ouais, la Tommy Westphal,
ça, c'est United assez Theory, intéressant là, quand les fans se mettent à faire des nids puis à présumer que les films sont dans le même univers.
Ouais.
Par des signes qui sont mineurs, tu sais.
Comme avec Cloverfield.
Ouais, c'est ça, ce genre de choses-là. Donc, des fois, les liens sont ténus, voire sont même de la surinterprétation ou de la mauvaise lecture, mais ça crée, c'est intéressant parce que là, on crée un univers fictionnel qui... Donc, les films ne sont pas de l'univers de la fanfiction, mais l'univers l'est. Donc, il y a quelque chose de drôle dans, dans l'idée que la sérialité même vient des fans, alors que les films ne sont pas pensés comme ça.
Puis il y a une dérision souvent. Moi, je me souviens, ça c'est vieux, je ne sais pas si ça existe encore, mais il y a 10-15 ans, là, il y avait une petite web-série, là, c'était Chad Vader, c'était comme le frère loser de Darth Vader. Là. Il était commis dans une épicerie, là, puis il utilisait la force pour causer la caissière. Là. C'était comme hilarant. Là. Mais tu sais, c'est pas sérieux, évidemment. Ouais. Là, mais en tout cas, ouais,
c'est pas sérieux jusqu'à temps qu'il y ait un créateur un peu zélé qui décide de le mettre canon. juste pour fucker le chien. un truc à la... Encore, je reviens dans la série de comics, mais c'est relié à l'univers de Star Wars, le Taggin Binks Are Dead, qui est une série de trois comics qui reprend l'idée de Rosencrantz and Guildenstern Are Dead de Tom Stoppard, mais qui l'applique à deux pilotes de X-Wing de A New Hope, et qu'on voit tranquillement que c'est eux autres, la garde rouge, par exemple, qui attend à côté de l'ascenseur. On voit que un peu à la manière du Roi Lion 1,5, là, ils sont un peu les acteurs les plus importants dans toute l'œuvre, c'est ça. Il peut y avoir des trucs de même, une fois de temps en temps, qu'il y a quelqu'un qui décide de juste en volonté de jouer vers un caméo, que là, tout d'un coup, il y a une interprétation qui se canonise, puis là le fandom il explose. Mm. Comme, ah ouais, ben, parce que lui, il est là, ça veut dire que c'est un fan de ça, puis oui, Chad Vader existe. Parce que, d'intégrer le sketch de Cafeteria d'Eddie Izzard, dans le canon de Star Wars, ça peut partir en couille assez intensément.
Dans les séries télé, on le voit depuis très longtemps, c'est les crossovers, au fond. Les crossovers nous posent que toutes ces séries entre lesquelles il y a des crossovers sont dans le même univers, fictionnel. Donc, il y a cette idée-là de créer un univers, même si les liens sont ténus. Des fois, c'est juste un épisode, puis on va comprendre que, je sais pas, la serveuse, c'est la sœur de tel autre personnage dans...
C'est ça, le Tommy Westfall. C'est comme que toute la télévision américaine existe dans un globe.
dans le même univers.
Mais ça flirte avec le méta, c'est intéressant.
Non, c'est un gros méta. Ouais. Tout ça provient, en fait, qu'il n'y a qu'une télésérie de toute l'histoire des États-Unis, puis c'est Saint Elsewhere.
OK. Mais il y aurait peut-être la distinction aussi à faire, qui pourrait être intéressante, entre justement le Cinematic Universe de Marvel puis le Multiverse de DC. Donc, cette idée-là que, oui, en fiction, on peut avoir un univers partagé, mais on peut aussi avoir... La fiction elle-même est un ensemble d'univers parallèles qui peuvent se croiser. Donc, est-ce qu'on est dans le même univers parce qu'il y a des croisements, ou est-ce qu'on n'est pas dans des mondes parallèles qui se croisent au contraire? Donc, je trouve qu'il y a ça qui peut être intéressant, parce que ces mondes-là peuvent avoir des règles qui ne sont pas cohérentes les unes avec les autres, des esthétiques qui ne sont pas cohérentes. Donc, on est capable de plus accepter les incohérences quand on le pense de cette façon-là aussi, tu sais.
Puis d'un point de vue de la réception, moi, je trouve ça intéressant parce que... Puis ça, c'est Jason Mitchell, je pense, qui avait écrit ça pour les téléséries, mais ça s'applique aussi au cinéma. Ces croisements-là témoignent, pas de façon directe, mais de façon indirecte, d'une complexification des dispositifs narratifs. Sauf que, comme Mitchell l'a dit, dans le fond, aujourd'hui, la cinéphilie s'accompagne de compétences. Mitchell, lui, il dit que les spectateurs sont devenus quasiment des narratologues amateurs. T'sais, à force de justement spotter ça, puis utiliser un langage comme méta, métalèpse, on se retrouve dans une situation où on a une production qui se complexifie et une réception qui ne suit le pas. Je trouve ça vraiment intéressant.
Mm. Puis on le sent depuis, en tout cas en série télé, moi je dirais qu'on le sent déjà depuis l'hybridité des années 90, tu sais. Déjà sur les forums de Buffy, sur les forums de X-Files, on a déjà des gens qui sont des femmes qui ne sont pas du tout des spécialistes, qui ont développé des théories hyper complexes, une compréhension assez profonde aussi des mécanismes narratifs, des structures. Tu sais, c'est sûr que dans les années 90, les séries étaient encore... Moi, mon hypothèse, c'est que dans les années 90, on était plus dans l'hybridité, puis on est entré dans la complexité ensuite. Ouais. Parce que, tu sais, c'était assez binaire, c'est-à-dire qu'avant, on avait des feuilletons, puis on avait des séries. Dans les années 90, on s'est mis à avoir des hybrides entre les feuilletons et les séries, puis là, on ne peut même plus parler d'hybridité parce qu'on est dans une complexité qui est trop grande. On ne pourrait plus identifier alors qu'il existe encore des séries et des feuilletons purs, ça existe encore. Mais il y a toute la complexité vie de Mitchell, pour moi, c'est typique des années 2000 plutôt que des années 90, tu sais.
Et ça participe à la cinématisation de la télé, parce que là, tu as ces séries où, tu sais, chaque épisode est réalisé par un réalisateur différent qui porte sa signature sur l'épisode, ou plutôt l'épisode porte la signature. Puis ça date de Twin Peaks.
Ouais. Oui, puis on l'a vu, des réalisateurs de cinéma arriver à faire des épisodes de séries qui sont devenus vraiment des morceaux d'anthologie.
Ouais. Fincher, entre autres.
Oui, mais... dans CSI, il y a deux épisodes réalisés par...
Tarantino,
qui sont vraiment très distinctifs. Ils sont assez intéressants en plus, là. Ouais, c'est assez réussi, mais c'est comme deux épisodes, fait que ça devient un film, c'est ça qui est assez paradoxal. C'est quand les réalisateurs de cinéma viennent faire des épisodes, ben, ils en font des films, en fait.
Absolument.
Parce qu'ils sortent la série de sa sérialité, ils sortent la série de sa structure habituelle, puis ils viennent imposer plutôt leur style cinématographique. Mm-hmm. Puis je pense que ça, c'est juste un plus, là. Je pense pas que c'est nécessairement quelque chose de négatif, mais reste que ça devient plus des épisodes de cette série-là, tu sais, ça devient... La plupart du temps, même, ils vont être commercialisés à part. T'sais, les épisodes de Tarantino, ils ont été vendus en DVD à part.
Oh, ouais.
Fait que, ça, je savais pas.
Ouais, cool. Fait que, tu sais, puis je pense qu'il y a d'autres exemples. Je pense pas que c'est le seul, mais.
Ben, il y a une question d'attente aussi. C'est-à-dire que Tarantino, quand il a été embauché pour faire ces deux épisodes de CSI, j'imagine qu'il a été vraiment payé plus cher que l'autre réal non-name d'avant qui a passé avant lui.
Pas de chance.
fait que ça veut dire que la production s'attend aussi à ce qu'il fasse quelque chose qui ressemble à du Tarantino.
Ouais.
Parce que si le public, quand il voit le nom de Tarantino au générique de début, ben, il serait vraiment déçu s'il ne retrouvait pas du tout Tarantino ouais. là-dedans. Fait qu'il y a cette tension-là qui est intéressante aussi entre la stylisation qu'un auteur peut procurer à une série tout en n'ébranlant pas l'intégrité narrative, esthétique de la série, puis l'espèce de méga structure qu'est la série, puis qui ne doit pas déroger, en fait, à ce qui fait que la série est une série, puis que cet épisode-là fit avec le reste du canon. C'est un peu comme... un exemple intéressant de ça, c'est l'épisode de la mouche de Rian Johnson dans Breaking Bad.
Ouais.
En même temps, c'est intéressant parce que la structure narrative de la série, à ce moment-là, lui permet cette liberté-là.
Ouais.
C'est un épisode bonbon où le grand arc narratif, c'est pas nécessaire que ça avance. C'est juste intéressant de les voir travailler parce que ça crée aussi une quotidienneté à cette série-là. Puis c'est bon pour le pace de cette saison-là. Puis du coup, ça leur a permis d'aller chercher un réalisateur qui a fait un exercice de style.
Ouais.
Ça fonctionne bien.
Moi, je pense qu'on sous-estime vraiment l'importance de ces épisodes autonomes-là. On a l'impression qu'ils sont complètement à l'extérieur des séries, mais en fait, ils en font partie.
Ah oui.
Ne serait-ce que, des fois, juste en créant un négatif, c'est-à-dire, OK, ben, vous avez peut-être pas remarqué c'était quoi notre structure, on va la détruire, comme ça, vous allez la revoir. Elle va réapparaître. Puis ça permet aussi, souvent, en sortant de, justement, de toutes les... Surtout quand ça fait plusieurs saisons qu'une série avance, ben, on est comme pris dans tout un réseau d'histoires, de trames narratives, de personnages qu'il faut toujours intégrer. Donc, il y a une lourdeur dans une série à mesure qu'elle avance, surtout depuis les années 2000, parce que ce qu'on constate beaucoup depuis les années 2000, c'est que souvent les séries commencent comme des séries puis finissent comme des feuilletons. Donc, plus ça va, plus ils se complexifient, puis plus ils sont incapables de maintenir leur effet de sérialité parce que leur histoire est trop complexe. Genre, c'est même plus possible. T'sais, on peut le voir, mettons, Battlestar Galactica, des séries comme ça, même Buffy, justement. X-Files, c'est la même chose, au fond. Des Monsters of the Week, à la fin, il n'y en a plus beaucoup. On est tellement pris avec une mythologie énorme qu'on est obligé de l'alimenter. Ces épisodes-là permettent de vraiment faire respirer, puis de permettre de ramener à l'essentiel des personnages, de s'arrêter vraiment en profondeur, puis souvent de révéler plus de choses qu'on pense, tu sais. Je pense que l'épisode de Fleur a révélé quand même beaucoup de choses sur ces personnages-là, sur leur état d'esprit, qu'un épisode normal n'aurait jamais pu faire, parce qu'en plus, à ce moment-là de la série, on est tellement tout le temps dans l'action, dans les affaires entre les différents gangs. Donc, on est comme pris dans tout ce bruit-là qui ne nous permet pas de s'arrêter à l'état d'esprit, même à la folie, en fait, de Walter White. Parce que c'est ça, à force de le voir se démener, on oublie la folie dans laquelle il est en train de se plonger. Puis cette folie-là se manifeste tellement bien, je trouve, dans cet épisode-là. Ça, c'est l'obsession, puis le délire de... Tu sais, t'as l'impression que c'est un bottle épisode, mais t'as l'impression que lui-même, il est comme embouteillé, tu sais, il est comme pris dans sa logique. Il était comme complètement... Il est plus capable d'en sortir, en fait.
Ben, tout à fait. Puis je pense que c'est un des grands écueils de la sérialisation, là, en général, au cinéma puis à la télévision. C'est qu'il y a une espèce de positivisme sériel qui fait qu'à partir du moment où c'est une série, tu n'as pas le choix d'avancer.
Ouais.
Il faut avancer, il faut que les récits avancent avec un certain rythme qui a été instauré au préalable par juste la mise en récit de la sérialité elle-même. Puis c'est assez fâchant parce que souvent ça fait du bien justement que des personnages puissent staller à un certain moment. Ou juste par exemple de voir une forme de quotidienneté s'installer. Ça, c'est quelque chose qu'on perd énormément dans la sérialisation du cinéma. Tu sais, je pense que le dernier moment vraiment de quotidienneté qu'on a pu voir dans le Marvel Cinematic Universe remonte peut-être à Age of Ultron, où il y avait juste les Avengers en train de chiller dans un party puis d'essayer de lever le marteau de Thor. Puis ça fait, je sais pas, ça fait combien de films depuis, peut-être une douzaine de films. Puis ces moments-là se sont complètement perdus. À chaque fois qu'on voit un personnage, on est rendu dans une espèce d'extension narrative qui est tellement encombrée qu'à chaque fois qu'un personnage apparaît à l'écran, il faut que son temps écran soit hyper productif, narrativement, puis de manière sérielle. Fait qu'il faut que tout ce qu'il dit soit du character building ou fasse avancer les récits ou fasse de l'exposition de scénario. Mais il n'y a plus du tout de quotidien. Puis du coup, il n'y a plus de vie, en fait. Il n'y a que de la structure.
Est-ce que, sans révéler rien du contenu même des épisodes, mais est-ce que Endgame n'est pas un retour un peu à ça, d'une certaine façon? Est-ce que ce n'est pas possible, juste autrement dit, à la fin d'une série, de revenir à ça quand tu t'es encombré trop de complexité?
Bien, sans rien spoiler d'Endgame.
Ah non, c'est vrai. Je suis correct que ça va être diffusé plus tard.
Non, mais il y a des...
Je pense que tout le monde t'aurait attendu au rack à bicycle à 3h.
Mais vous remarquez que j'ai rien dit. J'ai juste fait la réflexion de comme... Non, c'est correct, on va diffuser en 3 semaines, on peut se dire... Non, il y a du monde dans la salle avec nous.
Mais au-delà, c'est-à-dire que dans les derniers épisodes, est-ce qu'il n'y a pas cette possibilité-là peut-être d'y revenir? Je ne sais pas.
Je dirais que cette espèce, par exemple, de vie, de quotidienneté qu'on aimerait imaginer pour ces super-héros-là, on aimerait qu'ils puissent emmener avoir un break. Puis peut-être vivre un peu ce break-là avec eux. Mais disons que Endgame pointe dans cette direction-là, comme une forme d'avenir, ou en tout cas de devenir espéré pour ces personnages-là. Mais en même temps, ce que Endgame prouve, puis c'est ça qui le rend assez fascinant comme objet de culture populaire, c'est qu'ils sont vraiment arrivés à un point où, justement, cette structure-là, la seule chose qui lui reste à faire, c'est de s'effondrer sur elle-même. Puis en ce sens-là, c'est ça qui l'incarne, Thanos, c'est l'espèce de sur-sérialisation, de sur-interprétation, de sur-sérialisation de tous ces récits-là. Puis Thanos, c'est un peu l'espèce de puissance de mort qui sommeille au fond du Cinematic Universe de Marvel depuis des années. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir que ces choses-là finissent. Puis lui, c'était l'espèce de force cosmique qui dit « OK, ben on va couper la poire en deux. »
On va détruire la moitié des super-héros parce qu'on est tanné de leur faire des films.
Ben c'est ça, tu sais. Puis ce film-là, il est dans le deuil de ça, puis il essaie de ressusciter ses jouets. Mais... Bon, je pense qu'on peut
ton hésitation est tangible. Mais on peut aller dans quelque chose qui va peut-être un peu moins déranger. Moi, j'ai été pris d'un profond sentiment pendant que j'écoutais Endgame d'avoir un flashback de proximité avec le second épisode de la 8e saison de Game of Thrones.
J'ai pas vu.
C'est qu'il y avait cette espèce... Puis bon, sans encore... Je pense qu'en parlant du second épisode, on se protège de rien dire. Parlons pas d'Endgame, parlons de Game of Thrones.
Mais oui, tu vas spoiler Game of Thrones.
Pas nécessairement. C'est que, non, parce que c'est pas un truc d'événement dans la série, mais c'est un truc de pacing dans l'histoire. C'est qu'on sait que Winter's Coming, on sait que tout ça est en train de se passer, puis qu'éventuellement les White Walkers vont arriver à Winterfell, puis ça va être une grosse bataille. En prévoyant grosse bataille, il y a cet épisode-là, qui est le second épisode, qui a été attaqué comme étant un épisode où, et je cite, « Il se passe rien », de manière peut-être un peu plus prosaïque, qu'est-ce qui crisse. C'est vraiment un moment où on arrête, puis on dit, la mort est inévitable, il y a quelque chose qui s'en vient, on se repose, on s'assoit, puis on a notre dernière conversation. Moi, ça fait en sorte que j'ai beaucoup aimé le second épisode de la 8e saison, parce que c'est un moment synthèse. C'est ça, c'est qu'ils s'assoient, puis ils font, « Hey, on a vécu ça, on a vécu ça, on a vécu ça. » Ça a fait ça. Puis là, il y a comme une mini-synthèse de tous ces arcs narratifs-là. Puis là, il y a des gros ambiguïtés.
Ça, c'est comme dans les sitcoms, là. Tu sais, t'as tout le temps l'épisode qui n'est pas un épisode.
It's mais a bottle episode.
C'est ça, exactement.
Oui, non, mais c'est pas un bottle episode. C'est que c'est le moment de...
Mais il y a une réflexion sur ce qui est
intérieur. Checks and balances.
Oui, c'est ça.
On, Ben, peut-être que c'est toi qui vas mourir, peut-être que c'est moi qui vais mourir, mais on sait que la mort s'en vient. Fait...
C'est la dernière saison de Buffy.
Absolument.
Au complet.
Ouais, ouais.
C'est vraiment l'idée de la fin d'une longue série. Tu sais. Je pense que c'est presque inévitable.
C'est ça. Ça fait que le dernier moment de
c'est insupportable,
d'arrêt, là, si on peut dire, ou le dernier moment de repos pour ces personnages-là, c'est juste avant la mort ou la destruction. Ou la...
En même temps, ce que tu dis là marche très peu dans Endgame. Dans la mesure où il y a vraiment des grosses...
Ça, je disais, je parlais plus.
Non, c'est parce que... Non, mais c'est le problème.
Je pense qu'il va falloir parler d'autre chose que Endgame, les gars.
Oui, on peut avoir cette conversation de top temps. Tu as très raison.
Moi, j'aurais plus envie de parler de Star Trek un peu, c'est-à-dire des derniers films, puis je vais vous spoiler Star Trek à la place, mais c'est pas grave. Ça fait deux semaines, ça devrait...
Je sais pas.
Tu sais
pas vu les deux derniers.
Oh, je peux littéralement te spoiler Discovery, génial.
Oui, je sais.
non, mais plus généralement, c'est plus dans le ton de la série en général puis des derniers films. Moi, je les aime beaucoup, les derniers films puis la dernière série, mais je suis plus capable de les voir courir partout. Honnêtement, pour moi, Star Trek, c'était des épisodes dans des cabines, c'était des épisodes dans la salle de réunion où tout le monde s'assoit puis discute puis réfléchit aux problèmes philosophiques de base. Mm-hmm. Des conséquences de ce qui est à l'écran, puis c'est complètement disparu. Il n'y a plus ça du tout. Quand tu s'arrêtes pendant 3 minutes, tu as l'impression qu'une catastrophe va arriver. Qu'il y a un gros timer au-dessus de la tête. Là.
C'est bien vrai.
Tu descends tout le temps, puis je trouve ça épuisant, honnêtement. Puis je pense qu'il y a une vraie tendance. Je pense que tu as raison. Je pense qu'il y a quelque chose du quotidien qui est en train de disparaître complètement. Dans cette tout le temps quête-là de l'action, de la.
C'est ça, je repense à Next Generation où, tu sais, Jordy, il arrivait toujours en disant on va avoir un problème dans 4 mois. Si tu changes pas le cristal, tu sais.
OK, on va y travailler, puis ils ont une équipe. Puis ils réfléchissent, ils brainstorm.
Mais il n'y avait pas beaucoup de cristal qui pétait devant Jordy. Ça arrivait peut-être 2 fois en cette saison. Bonne observation. Excuse-moi, Louis.
Ah non, mais moi, je partais ailleurs, en fait, parce que je vous écoutais, puis, tu sais, il y a comme cette forme, tu sais, contemporaine dans la série, dans le cinéma. Mais il y a aussi un rapport à l'œuvre source. Puis moi, je trouve, là, on n'en a pas vraiment parlé en amont, là, mais tu sais, je trouve qu'il y a une problématique de l'adaptation qui émerge. Puis on le voit dans les... j'ai beaucoup aimé, par exemple, certaines adaptations télésérielles comme Man in High Castle ou Handmaid's Tale, qui prennent, tu sais, des libertés vraiment beaucoup plus larges là, par rapport à l'ouvrage source. Là. Puis je vous écoute parler, votre culture des super-héros est de loin supérieure à la mienne, mais il reste qu'il y a de l'adaptation là-dedans aussi, il y a une œuvre source. Puis je pense qu'il y a, bon, évidemment, il y a toujours une réécriture quand il y a adaptation, mais il y a aussi, au niveau du dispositif, et de l'évolution de ce dispositif-là, tu sais, le film ou la série, tu parlais de Star Trek, ça date, temps, tu sais, dans les épisodes de Star Trek, versus aujourd'hui.
Mais même dans Discovery, on a même eu un Previously On tiré de la série originale des années 60.
Wow!
C'était
cool,
ça.
Donc oui, absolument. Mais c'est drôle parce qu'on en discutait justement sur, c'était quoi, Game of Thrones, je pense? Ton rapport à la source, puis...
Ouais,
qui est là, il y a des divergences qui... Ouais, c'est ça.
Mais tu pour t'y ramener ça à Star Trek, le moment, par exemple, quand ils font l'introduction dans Discovery des costumes originaux et que la première réaction, c'est « Wow, il est bien cool! » C'est une uniforme-là, j'ai vraiment hâte qu'on...
c'est drôle. C'est des petits clins d'œil.
C'est tout d'un coup, puis là, bon, évidemment, il y a eu une grande friction par rapport à... de quoi Discovery avait l'air par rapport dans l'aspect esthétique vis-à-vis de quoi la série originale avait l'air, mais là tu avais vraiment la série la plus loin dans le temps et qui est la plus proche dans le temps en fait.
Il y a un retour
qui regarde, c'est ça, c'est qui regarde l'original en faisant on a hâte d'arriver à ça, on a hâte d'arriver au point de départ.
Tu trouves pas ça un peu décevant? Ah non, tu n'as pas vu.
Non, je ne l'ai pas vu.
OK, ben on en reparlera.
Non, mais c'est parce que ça m'amène... En fait, c'est un très bon point parce que ça m'amène à une des questions que tu voulais soulever, toi, dans tes notes, sur l'idée de la temporalité industrielle puis la temporalité diégétique que si tu veux que je la relise. En fait, tu disais qu'il y avait cette tension-là. Il y a ceux qui regardent Star Wars qui regardent Star Wars dans l'ordre de production des films. C'est-à-dire qu'il faut que tu écoutes 1 à 9, mais il y a, l'inverse. Il y a du monde qui écoute 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3,
7, 8, bientôt 9.
Et l'autre dans l'ordre diégétique. Puis c'est pour citer Mathieu dans sa question, ces deux mises en récit provoquent des points de tension dans le séquençage narratif qui me semblent riches à explorer.
Absolument.
Mais c'est parce que, par exemple, si on prend Rogue One, j'ai fait l'exercice, est-ce que Rogue One est plus efficace si on le regarde avant New Hope, parce que c'est vraiment le prequel direct de New Hope, c'est jusqu'à la coupe d'avant. Hein.
Ah ouais.
Puis en même temps, je veux dire, oui, c'est intéressant, mais c'est intéressant de manière beaucoup plus mnésique. C'est-à-dire que moi, quand j'ai vu Rogue One, ça m'a fait triper, ça m'a surpris la fin, parce que tout à coup, je me suis dit, OK, ben, tu sais, la séquence d'ouverture de l'épisode 4, c'est probablement la séquence d'ouverture de film que j'ai vu le plus souvent dans ma vie. Puis là, tout à coup, un film qui est pas si bien foutu que ça, Rogue One, vient tout à coup changer complètement, ou en tout cas venir teinter ou, mettons, épicer cette perspective-là d'une scène qui était pour moi un fétiche d'enfance, en fait. Puis il y a quelque chose d'intéressant qui s'est produit là, Arbour. En même temps, après, tu sais, en regardant ces films-là de manière, tu sais, en suivant la chronologie diégétique, c'est pas nécessaire. En fait, c'est pas si intéressant que ça, je trouve. C'est vraiment plus dans l'ordre de la chronologie de la production industrielle qu'il y a cet exercice-là, justement, mnésique de réminiscence qui se crée. De la même manière que c'est probablement plus intéressant narrativement, justement, de voir la trilogie prequel de Lucas après avoir vu la trilogie originale, parce que ça devient tout à coup une forme, tu sais, d'antérécit qui prévoit tout ce qui va se passer par la suite. Puis dans le fond, c'est ça, je m'interrogeais beaucoup sur cette forme de tension-là, parce que quand, par exemple, on se promène un peu sur Internet, qu'on regarde ce qui se fait, par exemple, dans les discours de fans, marque souvent qu'il va y avoir des articles, par exemple, là, à l'aune de la sortie d'Endgame ou Star Wars, peu importe, des articles qui vont décrire c'est quoi l'ordre idéal pour regarder cette série-là, qui vont essayer de replacer chronologiquement tout ce qu'il faudrait voir. Donc, par exemple, dans la MCU, il faut commencer par Captain America plutôt que le premier Iron Man, etc. Puis après ça, venir placer Captain Marvel, qui vient tout juste de sortir, à côté de films qui ont été faits il y a 10 ans. Alors que le clash esthétiquement est flagrant et profond. J'ai réécouté récemment le premier Iron Man, le premier Thor, puis c'est fou à quel point j'ai pris une méchante drop en voyant ces films-là, en me disant c'est incroyable à quel point ils étaient vraiment mieux filmés que les films aujourd'hui, à quel point, je veux dire, au niveau de l'éclairage, c'est des films déjà qui étaient tournés en pellicule, qui étaient vraiment plus down to earth dans leurs intérêts, dans leur manière de développer les personnages. Où je me disais justement au niveau du tempo, je me disais, waouh, c'est fou, ça fait 5 minutes qu'on est dans le même espace. Puis que les personnages font juste discuter, ça se verrait plus jamais aujourd'hui dans un blockbuster tel que Marvel le produit. Fait que je pense que cet exercice-là, en fait, de mettre en tension et les temporalités industrielles et les temporalités diégétiques est vraiment riche, puis m'amène, dans le fond, à présenter un concept dont je voulais parler aujourd'hui, qui a été développé par un chercheur en études japonaises qui s'appelle Alexander Zaltan, qui a, dans un livre qui est sorti récemment en 2017, qui s'appelle « The End of Japanese Cinema », développé un concept qui s'appelle celui des genres industriels. Puis Zaltan, en fait, prend pour exemple une série de films qui a vraiment été très populaire au Japon au début des années 90, qui s'appelait le « V-cinéma ». Puis le principe du V-cinéma, c'était dans le fond, de prendre un paquet de réalisateurs qui étaient de réalisateurs arabais puis d'acteurs arabais, puis de produire l'équivalent japonais du straight-to-video. À la différence que le straight-video au Japon, à ce moment-là, sortait en simultané et dans les clubs vidéo et dans les salles de cinéma. Mais dans tous les cas, le V-cinéma avait une espèce d'étiquette. Chaque cassette était identifiée V-cinéma. C'était vraiment toujours le même type de récit. Au même titre qu'on a pu catégoriser, par exemple, le film noir après la Deuxième Guerre mondiale. Mais il y avait, par contre, des directives à l'intérieur du V-cinéma qui étaient des directives qui étaient purement industrielles. Par exemple, le producteur qui a inventé le concept de V-cinéma, ce qu'il disait à tous ses réalisateurs, c'était « Faites ce que vous voulez, mais faites des films que les gens ne voudront pas fast-forwarder. » Puis c'était « that's it », c'était la seule prérogative pour faire des films de V-cinéma. Puis j'ai l'impression qu'à notre époque, que ce principe de genre industriel me semble peut-être plus juste, ou en tout cas plus productif, quand on pense à la sérialisation du cinéma. Quand je regarde, par exemple, les films de Marvel, pour moi, avant d'être des films de super-héros, c'est des films de Marvel Studios qui répondent à des prérequis qui s'alignent sur un plan industriel, qui se triangule avec plein de choses, comme par exemple l'apparition de nouvelles technologies, comme la plateforme Disney Plus, qui déjà annonce certaines séries phares qui vont être en fait des espèces de mini-séries télévisuelles. Mais en même temps, ils disent qu'ils vont mettre autant de cash dans ces séries-là que dans leurs films. Ça va poursuivre des trames narratives de personnages dont on n'a jamais eu encore d'histoire en solo, mais que pourtant on connaît depuis une dizaine d'années. Donc, ce principe de genre industriel, dans le fond, je crois, nous permet peut-être, si on l'applique à la culture pop américaine, à avoir une vision peut-être plus transversale de ce qui se passe avec ces séries-là.
Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui existe depuis assez longtemps, au fond? Ce n'est pas les films de monstres de la Paramount ou les films de Disney, en fait, les animations de Disney qui obéissent à des règles qui sont peut-être internes au studio?
Bien, tout à fait. Le principe de genre industriel, dans le fond, qui je pense, gagnerait vraiment à être justement développé ailleurs qu'au Japon, c'est de dire que... En fait, c'est de se dire d'arrêter de fonder notre conception du genre sur une espèce de taxonomie d'agencement de signes, puis de paradigme de signes, puis d'agencement de signes, parce que dans le fond, ces structures-là n'évoluent jamais naturellement. Elles évoluent seulement quand nous, on décide de créer des structures pour ensuite dire, OK, bien, on pourrait classer ces sérialités-là de telle ou telle manière. Alors que si on prend d'emblée l'angle d'attaque du genre industriel, d'emblée, on est dans quelque chose qui est beaucoup plus pragmatique, où est-ce qu'on se dit, OK, bien, cette série-là, si elle est série, c'est parce qu'il y a une production qui a décidé d'en faire une série. À partir de ce moment-là, c'est beaucoup plus stratégique de réfléchir à la sérialisation autour de ces considérations-là, non seulement parce qu'on peut mieux les prévoir, mieux lire dans leur jeu, mais en même temps, ça nous permet aussi d'avoir, peut-être de développer davantage de conscience critique ou réflexive, de moins rentrer dans le jeu de la sérialisation.
C'est comme si le contexte et le mode de production entraient dans la typologie du genre avec, moi, je suis très Rick Altman, la sémantique puis la syntaxe. Là. Mais je trouve ça intéressant, c'est comme un degré de plus.
Ouais. Bien, c'est un degré de plus, mais en même temps, c'est un degré qui est parfaitement compatible, d'une certaine manière, parce que justement, ce modèle théorique-là, son filet pour attraper les séries, c'est le modèle de Rick Altman. Zaltan en parle beaucoup, d'ailleurs, dans son livre, en disant que c'est pas une conception du genre qui veut créer pour remplacer, justement, celle d'Altman. C'est juste pour essayer de l'intégrer à quelque chose qui correspond peut-être plus à notre réalité d'aujourd'hui, qui est, même si, justement, les gens sont de plus en plus... à l'affût, de plus en plus au courant de c'est quoi une sérialité puis comment ça fonctionne. T'sais. Maintenant, on n'a même plus besoin d'expliquer c'est quoi un crossover. C'était pas le cas il y a 10 ans.
Parce que les spectateurs sont des narratologues amateurs.
Exactement. Puis c'est fascinant. Mais en même temps, c'est le cinéma qui nous a, c'est le cinéma commercial contemporain qui a éduqué aussi le spectateur dans cette direction-là. Tu sais, c'est Marvel avec ses scènes post-génériques, ces choses-là, ça éduque le spectateur. Puis après ça, ça se sert en fait de ce nouveau spectateur, parce qu'il y a clairement un nouveau spectateur qui a émergé de tout ce paradigme-là dans les 10-15 dernières années, puis qui va parvenir après à pouvoir banquer sur les nouveaux désirs qui ont été créés par ce champ-là qui a été ouvert.
Il y a un nouveau spectateur parce qu'il y a ce que Matthew Campora appelle un nouveau Hollywood, en faisant justement référence à toute l'apparition des complexités narratives. Puis Warren Buckland aussi avec les mind game films, les mind fuck films. T'sais. Mais là, on s'en va ailleurs.
Ça va être...
Non, mais j'allais juste dire qu'il y a quand même des liens à établir avec l'histoire. C'est-à-dire que je suis d'accord qu'il y a quelque chose de vraiment nouveau qui se joue, mais il y a quand même... Je pense tout de suite au mystère de Paris, mystère de Londres, tout ça au 19e siècle, qui était vraiment de cet ordre-là. C'est-à-dire qu'on avait créé un genre qui était alimenté, que le public lisait en feuilleton ou en roman. Il y avait des jeux, il y avait des jeux de table, il y avait des objets promotionnels. Donc, il y avait déjà ça. Je pense que cette logique-là de l'industrie culturelle est là déjà un peu, au moins en germe depuis longtemps.
Mais c'est intéressant de la prendre en compte, je trouve, dans la typologie des genres.
Ben, c'est parce que je pense que, tout à fait, tu fais vraiment bien de le dire, c'est quelque chose qui est là depuis vraiment longtemps, depuis qu'on a commencé à tester, en fait, le facteur, le potentiel de reproductibilité d'un sujet à travers différents médiums. Ça se fait beaucoup à travers l'industrialisation de la culture. Mais c'est, là, aujourd'hui, on est rendu à un point où, à cause de l'évolution des moyens de communication, à cause des réseaux sociaux, à cause de l'émergence de communautés de fans qui sont hyper importantes, que je pense qu'on va s'enligner vers un futur où, par exemple, je crois que, par exemple, Disney, avec sa plateforme Disney+, que ce soit avec ses marques Star Wars ou Marvel, va finir par avoir le guts, d'ici quelques années, de dire, OK, ben cette information-là, dans ce film-là, vous ne pouviez pas l'avoir en suivant seulement nos films de cinéma, il fallait que vous suiviez notre mini-série sur Disney+. Mm-hmm. Le jour où ça va se produire, on va vraiment entrer dans un autre game.
Ils l'ont fait avec Marvel, Agents of S.H.I.E.L.D. un peu quand mais même. Ça n'a pas très bien marché. Là,
ouais. Mais c'était de l'ordre de l'indice, c'était pas de l'ordre de l'élément manquant.
T'as raison. Mais,
c'est effectivement.
Ça n'a pas très bien marché de toute façon. Mais...
Ah, pour moi, oui. Moi,
j'ai non, mais je veux dire, il n'y a personne qui a eu besoin de l'écouter pour suivre les films. Effectivement, je veux dire, l'intrication n'a pas forcément bien marché. Je ne dis pas que la série n'était pas bonne, là, mais...
Oh non, mais okay. Moi, c'était plus comme le fait d'avoir des communications. Bon, il y a un exemple quand même célèbre où il y a une conversation qui est partie, une conversation téléphonique qui part dans Avengers, je crois, ou dans, je pense que c'est dans Captain America,
qui se
termine, ou du moins la personne qui est au téléphone de l'autre bord est dans Agents of S.H.I.E.L.D.
Ah ouais.
Ça, c'est genre
c'est
de...
intéressant.
C'est un easter egg, là.
Oui, c'est toute l'activation de Hydra.
Ah, OK.
L'activation de Hydra, c'est simultané sur les deux plateformes. Puis moi, c'est... Personnellement, ça m'a bien amusé. Merci énormément. Je crois pas m'être trompé quand je disais que vous étiez le pinacle de la pertinence et de l'intelligence. Tout le monde dans la salle est d'accord avec ça.
Merci.
Merci beaucoup.